Le chat parlant par Horace Van Hoffel. Mais non, dit Guinchard. Pendant ma carrière, j'ai aidé à pincer plusieurs centaines de criminels fameux. Je ne vois rien là-dedans qui ressemble à un roman policier. L'erreur des honnêtes gens est de penser que les criminels sont pleins d'audace et d'un ténébreux génie, alors que c'est exactement le contraire qu'il faut croire. Cela tombe sous le sens. Un homme vole un portefeuille, éventre un coffre-fort, parce qu'il est trop bête pour inventer la fine escroquerie qui le tire d'affaire avec beaucoup moins de risques et d'efforts. De même, le misérable étranglant une vieille rentière, pour quelques sous, n'a guère plus d'esprit qu'un loup affamé qui se jette sur sa proie. Si les voleurs et les assassins avaient un peu d'imagination et aussi le temps de réfléchir, on n'en pincerait pas un sur 100. Et Guinchard médita pendant une minute. « Non, vraiment, » reprit-il, « à moins que je ne vous raconte l'histoire du chat parlant. Et encore, c'est plutôt un conte fantastique qu'une histoire de brigand. Allez toujours, dis-je. » Cela s'est passé à C, presque dans la grande banlieue de Paris. Je dis C, afin d'éviter que vous nommiez l'endroit. Le héros et les principaux témoins de l'aventure vivent encore. C est une petite ville qui ne compte pas 10 000 habitants. C'est dans un pays perdu, en dehors des grandes routes. On n'y voit jamais le nez d'un touriste. Du moins, il en était ainsi avant la guerre, à l'époque où j'étais à C, en qualité de commissaire adjoint. Cependant, C vaut d'être visité. C'est un bourg du Moyen-Âge, demeuré à peu près dans l'état où il devait être lorsque Charles le Téméraire en fit le siège et faillit l'emporter d'assaut. Je ne m'y connais pas, mais il me semble bien que les remparts de C, son église et ses plus vieilles rues pourraient intéresser les archéologues et les artistes. Il y avait à C une rentière, qui était la personne la plus riche et la plus considérée de l'endroit. Considérée non pas à cause de sa fortune, mais à cause de ses vertus. Madame de T dépensait le plus clair de son revenu dans les œuvres de bienfaisance. Grâce à elle, C possède un hôpital et un orphelinat modèle. Madame de T n'avait d'autres parents que son neveu Nestor. Nestor était un jeune homme charmant et de bonne conduite. La seule chose qu'on pouvait lui reprocher, c'était qu'il ne s'occupait de rien et ne songeait pas à prendre un état. Mais puisqu'il devait hériter la grosse fortune de sa tante, à quoi bon travailler, n'est-ce pas ? Madame de T sortait rarement, mais tous les soirs, quelques personnes de la ville, parmi lesquelles j'étais, allaient faire leur partie chez elle après le dîner. La bonne dame n'était devenue si casanière qu'après la mort de son mari, survenue peu avant mon arrivée à C. Ce cruel événement l'avait tellement affectée qu'elle en avait gardé une maladie de cœur, qui, disait-on, pouvait la tuer à la moindre émotion un peu forte. Aussi étions-nous tous d'accord pour la traiter avec un respect infini et une tendre prudence, comme un de ces objets précieux que nous n'osons toucher, de peur qu'ils ne nous échappent des mains et n'aillent se briser sur le sol. Assez, comme vous le pensez bien, la vie n'était pas plus agitée que dans le château de la Belle au bois dormant. Néanmoins, tous les ans, vers la fin de l'été, les forains installaient leurs tentes et leurs roulottes sur l'esplanade. Alors nous avions des bals et de la musique pendant 8 jours. Cette année-là, je veux dire l'année du drame, je me rendis à l'esplanade la veille de l'ouverture de la foire. Il s'agissait de voir si tout était en ordre et si les ordonnances du maire étaient respectées. En arrivant sur la place, je fus étonné d'y voir le jeune Nestor, bavardant avec un gros homme, à l'entrée d'une loge foraine. La toile tendue devant la baraque attirait l'œil par ses peintures terrifiantes. Il y avait un homme vêtu de rouge qui, le poing posé sur une hache gigantesque, attendait le bon vouloir d'une femme agenouillée près d'un billot. Tracé en lettres sanglantes, l'enseigne de la loge expliquait le mystère. Inouï, inédit, jamais vu en France, la tête coupée vivante. Au moment où j'allais m'approcher, une jeune fille très frisée et assez jolie sortit d'une roulotte voisine et vint rejoindre Nestor et son compagnon. De loin, je les vis rire, tous les trois. « Bon, me dis-je. Voilà Nestor qui fait la cour à une saltimbanque. Il n'est pire que l'eau qui dort, mais Nestor a du temps à perdre. Cependant, il me parut bientôt que cette rencontre n'aurait point de suite. La fête se passa comme de coutume. À la fin de la semaine, les forains plièrent bagages et allèrent planter leur tente ailleurs. Un mois après, je n'y pensais plus. Un soir, pendant que nous étions réunis chez Madame de T, la conversation tomba sur l'intelligence des chats. Il faut savoir que notre hôtesse possédait une chatte extraordinaire dont on parlait dans toute la ville. On affirmait que Minouche, c'était le nom de la bête, était plus fidèle qu'un chien et plus malicieuse qu'un singe. « Il est certain, nous expliqua Madame de T, que Minouche comprend tout ce que je lui raconte. Elle distingue parfaitement les gens qui ont peur d'elle de ceux qui ne la craignent pas. Elle s'amuse à épouvanter mes servantes, surtout les nouvelles venues. Elle se cache sous leur lit, à l'heure du coucher, ou surgit à l'improviste de derrière une porte, en faisant le gros dos tous ses poils hérissés. Le plus étrange est qu'il sait bien qu'elle ne peut pas jouer de cette façon avec moi. Au contraire, je suis absolument sûr qu'elle prend de continuelles et ingénieuses précautions pour ne pas m'effrayer. Il ne lui manque que la parole. » Pendant que sa maîtresse parlait ainsi, la chatte semblait l'écouter. Elle était assise sur la table, au milieu du salon, immobile comme une statue, et regardant avec ses yeux d'or vert, ses yeux de démon, dans le vide. « C'est vraiment dommage, » dit Nestor, « qu'elle ne parle pas. Quand elle est comme ça, j'ai toujours envie de lui demander « Que vois-tu, Minouche ?» Il est évident qu'elle voit quelque chose de mystérieux que nos yeux humains ne discernent pas. « Allons, Minouche, une fois n'est pas coutume, qu'y a-t-il devant toi, là, dans l'air transparent et léger ?» Alors Minouche tourna sa tête lentement du côté de Nestor et elle répondit « Je vois la mort. » Il y eut un mouvement d'effroi parmi nous, des chaises bousculées, des exclamations. « Pas possible, voyons. C'est une blague. Quel est le farceur ?» Tout ce vacarme mit Minouche en fuite. Elle sauta de la table et alla se percher sur le rebord de la fenêtre ouverte sur le jardin. Là, dans l'ombre, ses yeux s'agrandirent encore et semblaient nous défier. « Diablesse !» grogna Nestor. « Veux-tu filer ?»« Tu me l'as demandé ?» riposta la chatte. « Je ne sais dire que la vérité. La mort est là !» Elle sauta dans le jardin. « Messieurs, au secours !» cria Nestor. « Ma tante se meurt. Vite, un médecin !» Nous nous aperçûmes que la présence d'un médecin ne pouvait plus rien sauver. Madame de T venait de succomber, tuée net par l'émotion. Ceux qui commirent l'imprudence de raconter cette histoire en ville y perdirent à jamais leur réputation d'homme sérieux. Pourtant, devant nos témoignages formels et réunis, le médecin de C trouva une explication. Nous nous étions suggestionnés mutuellement. La chatte avait poussé un miaulement rauque, imitant par hasard les paroles qui correspondaient à la secrète angoisse suspendue sur notre assemblée. Le pressentiment de la mort existe dans la nature, chez tous les êtres organisés. À quelque temps de là, dans une bourgade voisine, je revis la baraque de la tête coupée vivante. J'y entrais sans arrière-pensée. Le gros homme était le bourreau, la jeune fille très frisée la victime. Le gros homme lui coupait la tête et la montrait au public. Pendant qu'il la tenait par les cheveux, la tête sanglante babillait et disait la bonne aventure. Après le spectacle, j'interrogeai l'homme. « J'espère que l'on vous reverra assez. Vous y retrouverez des amis. »« Je crois bien, » répondit le bourreau. « Assez, il y a un jeune homme charmant qui m'a payé très cher pour apprendre le métier de ventriloque. Une idée de riche. » Il voulait, disait-il, faire une farce à sa tante. « L'élève a bien profité de vos leçons ?»« Pas du tout. J'ai perdu mon latin, il n'était pas doué. » C'était « Le chat parlant » par Horace von Hoffel.